endométriose. Donnons la parole à nos experts.
Allô Jean-Marie, bonjour.
Bonjour César.
Bonjour Jean-Marie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, je suis Jean-Marie Liével, gynécologue sur la côte basque depuis très longtemps et depuis un peu plus de 2 ans, gynécologue chez Livy en téléconsultation.
Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire, déjà en introduction, qu'est-ce que c'est l'endométriose?
Alors, l'endométriose, tout d'abord l'endomètre, c'est le tissu qui tapisse l'intérieur de la cavité utérine. En l'absence de grossesse, ce tissu va se détacher tous les mois à la fin du cycle et les cellules endométriales vont être expulsées par le canal cervical et par le vagin, mélangées avec du sang. De temps en temps, il peut arriver que ces cellules migrent soit par voie rétrograde dans les trompes, soit par voie sanguine, soit par voie lymphatique, vers l'intérieur de l'organisme. Et là, elles vont se greffer sur d'autres organes ou sur le péritoine. Et c'est ça, l'endométriose.
Donc, si on comprend bien, donc c'est du tissu de l'endomètre qui ne reste pas à sa place, finalement, et qui peut aller migrer ailleurs.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous donner quelques informations concernant la prévalence de l'endométriose en France et nous dire comment ça a évolué au fil du temps?
Alors, la prévalence en France, on calcule environ que ça atteint une femme sur 10, 10%. C'est un chiffre qui est certainement très inférieur à la réalité, du fait justement de l'absence de diagnostic et du fait aussi que certaines endométrioses sont totalement asymptomatiques. Et donc, on va s'en apercevoir à l'occasion d'examens pour d'autres problèmes ou pour des recherches en cas d'infertilité.
Est-ce que tu peux nous donner quelques informations aussi sur les facteurs de risque de l'endométriose?
C'est très intéressant justement de s'attacher à la recherche des facteurs de risque parce que ça va nous permettre d'accélérer le processus du diagnostic. Les facteurs de risque, on retrouve d'abord les antécédents familiaux, c'est-à-dire des antécédents d'endométriose dans la famille, voire même des antécédents de cancer. Les antécédents personnels, c'est la prématurité, la maltraitance et le phénotype. Alors, le phénotype, c'est souvent des femmes minces avec un BMI qui est faible, en dessous de 20, des femmes à peau claire avec beaucoup de nez vide, de taches de rousseur, les yeux clairs. C'est des enfants qui supportent moins bien l'exposition au soleil. On trouve dans les antécédents que c'était des enfants qui attrapaient des coups de soleil beaucoup plus vite que leurs copains. C'est aussi des règles qui sont particulières dans la mesure où elles ont eu leurs règles assez tôt. C'est des règles longues avec des cycles courts. Et puis, il y a aussi maintenant des facteurs environnementaux avec en particulier les PCB, les dioxines. Là, récemment, j'ai eu des discussions avec des consoeurs de Guadeloupe et elles disent qu'avec la pollution par le chlordécone, elles ont beaucoup plus d'endométriose actuellement.
Jean-Marie, quels sont les principaux symptômes de l'endométriose?
Alors, les principaux symptômes de l'endométriose, c'est la douleur. C'est le principal symptôme. C'est une douleur, c'est la dysménorrhée.
Jean-Marie, on peut expliquer aux gens ce que c'est la dysménorrhée?
Alors, la dysménorrhée, c'est la douleur contemporaine des règles. Donc, normalement, il peut y avoir des douleurs modérées au moment des règles. Par contre, une douleur, donc une dysménorrhée, qui empêche les activités courantes, que ce soit le travail, les activités sportives ou même la vie sociale habituelle, là, c'est absolument pathologique. Mais c'est aussi des douleurs en dehors des règles, c'est des douleurs au moment des rapports sexuels, c'est des douleurs au moment de la défécation, au moment de la miction. Donc, c'est ça surtout, c'est la douleur pelvienne et la douleur abdominopelvienne, souvent.
Il y a aussi une description parfois de troubles digestifs.
Alors, il peut y avoir des troubles digestifs avec même des rectorragies en fonction de la position des nodules d'endométriose qui peuvent être au niveau du côlon, du rectum.
Dis-moi, Jean-Marie, j'aimerais bien qu'on parle du diagnostic. On parle souvent du retard du diagnostic vis-à-vis de l'endométriose avec des chiffres qui varient entre 7 et 10 ans. L'endométriose, comment ça se diagnostique?
Alors d'abord, il y a un phénomène culturel. Les règles sont douloureuses, on pense que c'est normal, que les règles sont douloureuses, que la douleur est consubstantielle de la condition féminine. Donc, c'est assez normal. D'ailleurs, on voit maintenant, par exemple, chez nos voisins espagnols, qu'on donne systématiquement des jours d'arrêt tous les mois pour les règles. C'est quelque chose qui est confortable pour les femmes, mais d'un autre côté, ça veut dire, oui, ben, on considère que les règles, elles doivent être douloureuses. Ce qui est absolument faux. Normalement, les règles peuvent être gênantes, mais pas douloureuses au point d'arrêter le travail, le sport, toutes les activités physiques tous les mois. D'autre part, il y a une attitude médicale qui veut que on fasse un diagnostic sûr avant de prendre en charge une pathologie. Ce diagnostic, on l'a vu, donc c'était un diagnostic histologique qui passait donc obligatoirement par la célioscopie ou par d'autres interventions chirurgicales qui permettaient un prélèvement. On a aussi des diagnostics par l'imagerie, mais l'absence de lésions visibles ne veut pas dire absence d'endométriose. Donc, on est plutôt maintenant, je pense, on va plutôt vers le test du canard. Si ça ressemble à un canard, ça nage comme un canard et ça fait coin-coin, c'est un canard. Et bien là, c'est pareil. Si une femme a mal au moment de ses règles, a mal au moment des rapports, et si en plus elle coche certains des items qu'on a vus, avec de nombreux nez vides, des taches de rousseur, des coups de soleil, des règles plus longues, des cycles plus courts, eh bien, on peut considérer que c'est une endométriose et il faut le prendre en charge comme une endométriose.
Oui, c'est ça le piège. Le piège, en fait, c'est d'être faussement rassuré parfois par des examens normaux, comme tu disais, l'échographie ou l'IRM. Donc finalement, le diagnostic, il est d'abord clinique.
Il est clinique, il est basé surtout, en fait, sur l'écoute de la patiente.
Jean-Marie, j'aimerais qu'on parle du traitement d'endométriose. Quelles sont les principales options de traitement et comment est-ce qu'elles varient en fonction de la gravité ou de la localisation de la maladie?
Alors, le traitement, c'est un traitement préventif. Il y a une prévention primaire. C'est-à-dire que dès qu'on pense qu'il y a une possibilité d'endométriose, il va falloir déclencher une aménorrhée, façon à éviter que tous les mois, la réaction inflammatoire augmente.
L'aménorrhée, juste pour les gens qui nous écoutent, l'aménorrhée, donc c'est l'absence de règles.
Exactement, exactement.
Donc ça, c'est le traitement à mettre en place dès qu'il y a une suspicion diagnostique, c'est ça?
Voilà. Et en plus, je dirais que bon, quand on a quelqu'un qui tous les mois reste 2 jours au lit, par exemple, qu'elle ait une endométriose ou qu'elle n'ait pas d'endométriose, on est bien obligé quand même de prendre en charge ce symptôme.
Bien sûr.
Donc, je pense que dans ce cas, la mise en place d'une aménorrhée, c'est vraiment le traitement de base. Et ça, c'est le traitement médical, je dirais, préventif primaire. Il y aura également des traitements médicaux post-chirurgicaux pour éviter les récidives. Plus le traitement est fait précocement, et plus il est efficace. D'où l'intérêt d'intervenir dès qu'on a un doute sur la possibilité d'une endométriose.
Et tu peux nous dire quelques mots sur les indications chirurgicales de l'endométriose?
Les indications chirurgicales, on essaie au maximum de les limiter actuellement, mais on n'y arrive pas toujours. Les indications chirurgicales, c'est quand on a des lésions qui sont tellement importantes, qui ont tellement évolué, que le seul fait de l'aménorrhée ne va pas les améliorer et qu'on va avoir des douleurs permanentes, des saignements permanents. Et quand la chirurgie est obligatoire, il faut savoir que malheureusement, il y a des récurrences extrêmement fréquentes, puisque en gros, on peut dire qu'il va falloir réintervenir dans 10% des cas au bout d'un an, 25% au bout de 2 ans et 45% à 5 ans. Donc, la chirurgie n'est pas forcément quelque chose qui va régler le problème. Pour mémoire, Marilyn Monroe a été opérée 7 fois.
Et il y a le traitement aussi de la douleur. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus?
Alors, le traitement de la douleur, il va s'ajouter au traitement hormonal qui va entraîner une aménorrhée. Ce traitement de la douleur, il va... Alors, si on arrive en début de pathologie, si on arrive à obtenir une aménorrhée, le seul fait de ne pas avoir de règles va entraîner une sédation de la douleur.
D'accord.
Autrement, si on laisse les choses évoluer, on va avoir, dans l'endométriose, on va avoir 2 types de douleurs. On va avoir d'abord une douleur physiologique, qui est une douleur qui est proportionnelle à l'inflammation, qu'on peut mesurer avec l'échelle EVA traditionnelle, qui est l'échelle donnée par le ministère des anciens combattants des USA. Donc, on compte de 1 à 10, Et ça, c'est la douleur qui est dès le début et qui est due à l'inflammation. Ensuite, on va avoir une douleur chronique parce que l'axe récepteur de la douleur va se sensibiliser et du coup, cette douleur, elle va devenir disproportionnelle. C'est-à-dire que le seuil douloureux va être abaissé. Ça veut dire que, par exemple, rien qu'en se touchant à peine le bas-ventre, elles vont avoir mal, ou en mettant un tampon, elles vont avoir mal. La diffusion dans l'espace de la douleur va être augmentée. Donc, elles vont sentir des douleurs qui peuvent être au niveau de l'utérus, mais au niveau, ça peut être des douleurs digestives, ça peut être des douleurs urinaires. On ne sait plus trop où ça fait mal. C'est tout le pelvis qui est douloureux.
D'accord.
Et puis, il y a une diffusion dans le temps.
Donc, on le comprend. Hein, là, il y a un intérêt vraiment majeur à diagnostiquer tôt, à dépister le plus tôt possible pour pas justement devoir arriver à ces états un peu extrêmes qui relèvent quasiment de ce que tu décris comme une consultation de la douleur qu'on peut voir parfois à l'hôpital, quoi. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous donner des informations concernant les perspectives d'avenir pour la prise en charge de l'endométriose? Est-ce qu'il y a du nouveau?
Actuellement, on est en train de tester des micro-ADN dans la salive. Alors, on ne sait pas exactement si ce serait un diagnostic de l'endométriose ou un diagnostic de l'inflammation. Mais encore une fois, je pense que quand ça ressemble à une endométriose, il faut la prendre en compte comme une endométriose. Et au niveau des perspectives de traitement, il y a déjà tout l'arsenal classique de l'hormonothérapie, c'est la contraception hormonale combinée, c'est-à-dire la pilule, mais prise soit en continu, soit sur des cycles de 3 mois, soit des progestatifs, comme le Dienogest. Pour la chirurgie, on peut parfois la remplacer avec de la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire des ultrasons qui vont détruire les zones ciblées. Et puis, la toxine botulique aussi est à laisser.
Ok, donc beaucoup d'infos là-dessus. En gros, les messages qu'on doit quand même passer, c'est que avoir des règles douloureuses, prolongées, invalidantes, ça doit amener à une consultation au minimum avec son médecin généraliste pour faire tout de suite le point, mettre en place un dépistage et un traitement rapidement pour éviter justement d'arriver à ce type de situation.
D'ailleurs, je pense que beaucoup de médecins généralistes ont fait de la prévention d'endométriose sans le savoir, parce qu'on voyait beaucoup de jeunes adolescentes qui venaient et qui souffraient, et on leur prescrivait une pilule, ça allait beaucoup mieux.
Ok, très clair. Merci Jean-Marie.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande ces associations. EndoFrance, EndoMind, EndoGirls en Outre-mer, ou encore EndoAction. Et pour plus d'informations pratiques, le site de référence est celui d'Info Endométriose.